Bonjour. Excusez-nous, on fignolait la technique. Les machines, hein, c'est... on ne font pas toujours ce qu'on veut. Cet après-midi, on est là pendant une heure pour parler Le Voyage Fantastique. Alors, on ne va pas vous parler de voyage du tout. Le Voyage Fantastique, c'était un film des années 60 dans lequel un sous-marin miniaturisé se baladait dans les vaisseaux sanguins d'un patient à opérer et menait une opération compliquée. Alors bien sûr, c'était un film. Hein. Et beaucoup de temps a passé. Et maintenant, il n'y a plus besoin de faire des choses impossibles comme de miniaturiser un sous-marin pour aller regarder l'intérieur du corps. Donc on a avec nous une brochette d'intervenants que je vais vous présenter très brièvement. Régis Laugier, le premier, qui travaille à Lille, à Lille, c'est ça, hein, au CHU de Lille, qui est chercheur INSERM et qui est spécialiste d'écouter les battements du cœur. Mais il nous dira plus précisément, bien sûr, de quoi il retourne. Pierre Janin, qui lui travaille au CHU de Rennes et à l'INSERM aussi. Tous les chercheurs travaillent à l'INSERM cet après-midi. Et qui a travaillé en particulier sur des questions de stimulation cérébrale et beaucoup d'autres choses aussi. La magnifique démonstration de réalité virtuelle pour apprendre les gestes des chirurgiens. Hein. Ça, c'est autre chose, mais vous pourrez aller le voir plus tard dans les stands qui sont derrière la salle. Michael Tanter, lui, travaille à l'INSERM aussi et dans une équipe de recherche à Paris, dont j'ai oublié le nom, il nous le dira éventuellement. Et lui, c'est un spécialiste de l'échographie ultra rapide et de tout un tas de systèmes qui utilisent des ultrasons, hein, pour voir l'intérieur du cerveau et tout un tas d'autres choses, on l'espère. François Rouillet est pharmacien hospitalier de profession. Il travaille en Suisse, lui. Et il est aussi un auteur de SF. Il en faut quand même, hein, ici aux Utopiales, qui a publié récemment un diptyque, hein, c'est pas une trilogie, c'est deux romans, qui s'appelle Metakin, et qui a aussi des choses à dire sur le futur de l'administration des médicaments. Voilà, donc ça c'est nos invités. Et on va peut-être commencer par Régis Laugier. Donc j'ai dit que vous écoutiez les battements du cœur, mais bien sûr, j'ai dit ça, j'ai rien dit, et il y a des choses étonnantes qu'on peut faire avec, apparemment.
Oui, alors effectivement, ça fait un peu plus de 30 ans que j'écoute les battements du cœur avec une grande attention. Donc je suis directeur d'un laboratoire de recherche INSERM au CHU de Lille, et nous sommes une équipe de 30 personnes et nous développons des technologies innovantes en santé. Et en particulier, nous avons mis au point une technique innovante qui permet de mesurer la douleur, le stress et les émotions. Alors, tout a commencé il y a plus de 20 ans. On s'est intéressé à mesurer les variations du rythme cardiaque pour essayer de comprendre quel était le niveau de douleur d'un patient qui ne peut pas communiquer sa douleur. Donc j'ai travaillé avec des équipes d'anesthésistes pour qui la problématique était d'injecter la bonne dose de médicaments antidouleurs chez un patient qui ne peut pas communiquer sa douleur. Donc, quand vous êtes opéré, quand on subit une intervention chirurgicale, on est endormi. Et donc, au cours de la chirurgie, bien sûr, les gestes chirurgicaux sont plus ou moins douloureux. Donc la douleur varie dans le temps et la problématique de l'anesthésie, c'est de donner la bonne dose puisque trop de médicaments antidouleurs et en particulier les morphiniques peuvent être délétères et pas assez de médicaments antidouleurs, ça peut aussi provoquer des complications pour le patient. Donc on a passé une bonne vingtaine d'années à essayer de comprendre comment on pouvait mesurer la douleur chez quelqu'un qui ne communique pas. Et donc l'idée était de se servir du rythme cardiaque. Alors pourquoi ? Parce que le rythme cardiaque varie de tous les instants. Parce qu'il est soumis au fonctionnement de notre système nerveux. Notre système nerveux, en particulier notre système nerveux autonome, qui, comme son nom l'indique, c'est la partie du système nerveux qui se débrouille toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de la pensée. C'est le système qu'on appelle aussi réflexe. Ce système nerveux autonome, lui, va capter votre environnement, par nos sens naturels bien sûr, et en fonction de votre environnement, va réagir sur vos organes. Par exemple, dans un moment de peur, si j'ai une peur soudaine, eh bien mon rythme cardiaque s'accélère. Pourquoi ? Parce que le système nerveux comprend que vous allez prendre la fuite, et donc il faut augmenter le débit cardiaque pour donner de l'oxygène dans les muscles. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est le système nerveux autonome, c'est le système qui régule votre vie finalement en fonction de votre environnement. Donc on avait compris ça et on s'était dit, finalement c'est un moyen simple, élégant, de capter, de se servir du rythme cardiaque pour comprendre quelle était la réaction du système nerveux qui lui-même est en contre-réaction d'une douleur, d'un stress, d'une émotion. Donc on a réussi ce challenge à partir de la mesure du rythme cardiaque, c'est-à-dire on vous met un capteur sur le doigt tout simplement, ou deux électrodes à même la peau pour prendre votre électrocardiogramme. Et notre travail a consisté à étudier de façon très fine les variations de ce rythme cardiaque. Et on a réussi à mettre au point donc une machine qui aujourd'hui est commercialisée par une start-up que nous avons créée, la start-up M. Doloris, et qui permet donc de mesurer le niveau de douleur en continu dans le bloc opératoire. Alors bien sûr, aujourd'hui, on s'est interrogé sur qu'en est-il du stress ou des émotions. Bien sûr, notre système nerveux autonome va réagir à la douleur, mais il va également réagir de la même façon à un stress ou une émotion négative ou positive. Donc avec la même technologie, c'est-à-dire le même principe de mesure, aujourd'hui, on a commencé des études pour mesurer, par exemple, le niveau de stress d'un individu et également les émotions. Alors, les émotions peuvent être positives ou négatives. Et en particulier, on a commencé des tests, par exemple, à l'écoute de la musique. Je ferai la démonstration demain sur le stand de l'INSERM. On vous met un casque sur les oreilles et je vous demande d'écouter votre musique préférée. Et pendant ce temps-là, je vous mesure le rythme cardiaque. Et donc, on voit sur l'écran votre émotion, donc on voit votre niveau émotionnel en direct sur l'écran. Donc non, en fait, notre index est un index entre 0 et 100. C'est un index de bien-être, de relaxation. Quand mon paramètre s'envole vers le chiffre 100, eh bien, c'est que je suis dans un état de bien-être, un état de zénitude. Voilà, donc à partir d'une recherche qui concernait le bloc opératoire, la douleur, on en est aujourd'hui arrivé à pouvoir mesurer donc les émotions chez un individu.
D'accord. Pierre, alors Pierre a une présentation à nous faire. Lui travaille sur, en particulier, enfin ce dont tu vas nous parler, les manières de stimuler des zones très précises du cerveau dans certains buts pour guérir ou traiter certaines pathologies. Hein ?
Oui, alors. Juste en introduction, je suis chercheur à l'INSERM aussi. Je suis responsable aussi d'une équipe INSERM à Rennes. Je ne sais pas si vous voyez les images. J'ai mis cette photo juste pour vous expliquer. Je ne suis pas médecin, je suis ingénieur de formation, maths, physique, informatique. Par contre, on travaille avec les chirurgiens. Donc là, c'est deux chirurgiens qui sont dans l'équipe. Nos thématiques de recherche sont plutôt liées à l'imagerie médicale, au traitement des images médicales pour aider les chirurgiens. Alors j'ai pris un exemple assez précis qui est la maladie de Parkinson. L'exemple qu'on a ici, c'est la dystonie. Ce n'est pas exactement la maladie de Parkinson. On voit que les patients ont des mouvements musculaires incontrôlés. Il y a quelques années, une vingtaine d'années, il y a un neurochirurgien français qui a inventé par hasard, on va dire, une technologie qui permet, c'est un peu comme le pacemaker du cerveau, qui en stimulant de stimulation électrique des petites structures qui sont au milieu du cerveau, on peut arrêter ces troubles moteurs. Alors c'est une stimulation qui est continue, les électrodes sont posées à terme dans le cerveau et stimulent ces petites structures anatomiques. On voit le résultat il est direct, quelques secondes après, en stimulation on, stimulation off, la patiente ici n'a plus ses troubles moteurs. Alors c'est assez étonnant, la façon dont on pose les électrodes en chirurgie, on voit ici un cadre de stéréotaxie qui permet de positionner précisément l'électrode. pour vous donner une idée de l'enjeu chirurgical, ça c'est la structure cérébrale qu'on va essayer d'atteindre, qui est au milieu du cerveau, qui est grande comme une petite amande, qui est le bout de mon petit doigt là. Et ça c'est la taille de l'électrode à l'échelle, et on est au milieu du cerveau. Non seulement il faut arriver à atteindre cette amande, mais en plus il faut arriver à atteindre simplement un des territoires de cette amande. Donc vous voyez, on doit être très précis dans le geste chirurgical, et tout ça en aveugle parce qu'on n'ouvre pas le cerveau pour placer l'électrode. Alors ce qui fait qu'il y a on est obligé, les neurochirurgiens sont obligés d'opérer avec le patient éveillé, et ils testent en temps réel le résultat de la stimulation sur des tests assez simples, qui sont des tests de rigidité motrice ici par exemple. Alors il y a plein, comme c'est très précis, il y a plein d'effets secondaires. Ça marche, mais il y a quand même plein d'effets secondaires. La littérature l'a montré. Et donc, il faut améliorer ce placement d'électrodes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On récupère des images médicales multimodales, c'est IRM, scanner. On les traite et puis on donne à disposition du chirurgien pour qu'il prépare son intervention à partir de ce patient qu'on peut appeler virtuel. On développe comme ça des techniques, on pousse un petit peu l'avancée, on a des modèles qui essayent de simuler la zone qui va être stimulée par l'électrode, et puis on met ces logiciels là dans le bloc opératoire. Donc on voit avec la neurochirurgienne en train de regarder les images qui sont calculées. Alors on va plus loin, je passe assez vite. On peut aussi évaluer en post-opératoire le résultat. Donc on va suivre l'électrode qui a été mesurée à partir d'un scanner post-opératoire, et on suit l'électrode et on voit comme ça qualitativement qu'on est dans cette structure orange qui est le noyau sous-thalamique. C'est une première évaluation, et puis on va encore un petit peu plus loin. Alors je vous pousse un petit peu parce que vous me donnez la parole, j'en profite. Pour aller plus loin dans la compréhension et dans l'amélioration des techniques, on récupère toutes les données des patients qui ont été opérés et puis on regarde ce que ça a donné. Et donc on fait de l'analyse de données sur des bases de données de patients précédents, et on regarde là où ça a bien marché et là où ça n'a pas marché. Donc on fait ce qu'on appelle de l'analyse de données ou du big data, du data mining, on peut appeler ça comme on veut. Et on arrive à calculer des cartes d'efficacité qui montrent, vous voyez, les zones rouges, là c'est les zones qui ont donné sur une population de 26 patients, qui ont donné les meilleurs résultats. Et donc on reprojette ces cartes-là, on les redonne au chirurgien quand il y a un nouveau patient pour lui dire, tu vois, ce que tu as fait ces 4 dernières années, voici les endroits qui ont donné les meilleurs résultats. Alors, on peut complexifier les outils qu'on développe à loisir. Là, on essaie d'utiliser de l'imagerie de diffusion, qui est de l'imagerie d'IRM, et qui montre les faisceaux principaux de matière blanche dans le cerveau, qui sont comme des autoroutes de la fonction, des autoroutes neuronaux, et puis essayer d'éviter finalement ces autoroutes-là lors de la stimulation par des calculs qui se basent à la fois sur l'image et sur des modèles mathématiques.
D'accord, merci. C'est très impressionnant. Donc les images que tu nous montres là sont obtenu par IRM, c'est ça, hein, oui, c'est... avec bien sûr des couleurs
artificielles. Oui, ça c'est un patient, ça c'est l'image, voilà, d'un patient.
D'accord.
Et la petite structure orange, c'est la même qu'on a vue tout à l'heure, c'est le noyau sous-thalamique, c'est la cible des patients parkinsoniens.
D'accord. Alors, Michael Tanter, lui, il ne met même pas des électrodes en métal dans le cerveau des patients. C'est d'autres méthodes qui permettent à la fois de voir et peut-être même d'agir. Ça, c'est sans doute dans le futur, et il va nous en parler.
Oui. Alors moi, en fait, je travaille sur les ondes ultrasonores. Ce sont des ondes, bien sûr, qui sont à haute fréquence. Vous avez entendu parler de ces ondes. Les animaux les entendent, nous, on ne les entend pas. Mais ces ondes ultrasonores sont extrêmement intéressantes parce que de toute la famille des ondes, les ondes électromagnétiques, les ondes optiques, les ondes mécaniques, les ultrasons sont les ondes qui ont la plus grande richesse d'interaction avec nos tissus humains. En fait, avec des ultrasons, on peut voir à l'intérieur du corps humain. Je vous dirai pourquoi on voit vraiment à l'intérieur du corps humain. On peut mesurer le flux sanguin, on peut voir les changements de dureté, les changements de température, on peut aller palper des tissus à distance, on peut aller chauffer des tissus, on peut aller brûler des tissus, on peut ramollir des tissus. et on peut liquéfier les tissus et on peut activer, comme vous le disiez, activer à distance des neurones pour aller stimuler à distance sans ouvrir le patient. Donc c'est une richesse d'interaction qui est folle avec les tissus et on ne maîtrise pas encore complètement cette richesse. Il y a une partie de cette richesse qu'on utilise bien aujourd'hui, c'est le domaine de l'échographie, mais il y a énormément d'interactions qu'on va pouvoir utiliser dans les 20-30 années qui viennent et améliorer tous ces systèmes. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. En fait, étant donné qu'on devait parler du voyage fantastique, je voudrais vous raconter ce que les ultrasons vont permettre de faire comme voyage fantastique bientôt dans le corps humain. Là, aujourd'hui, quand vous baladez dans les pièces, quand vous nous regardez, vous avez une façon de voir le monde qui est limitée. Vous ne voyez qu'une partie du monde, et cette partie du monde que vous voyez, elle est limitée par deux paramètres de la physique. C'est la résolution temporelle, la cadence d'imagerie. C'est à peu près 50 images par seconde. Votre œil, il voit 50 images par seconde. Et donc, c'est suffisant pour se balader dans les pièces, pour ne pas se rentrer dedans. Mais ce n'est pas suffisamment rapide pour voir pas mal de choses qui se passent en ce moment et qu'on n'est pas capable de capter. Il y a un deuxième paramètre qui est important en physique, c'est la résolution spatiale, notre capacité à voir des petits détails. Et quand vous vous rapprochez de votre cahier, ici, que vous essayez de voir le plus petit détail, on arrive à descendre à peu près à 0,2 mm, puis on ne peut pas voir en dessous. Donc ces deux paramètres, 50 images par seconde, 0,2 mm, c'est ce qui nous définit la façon dont on voit le monde. Alors maintenant, en médecine, nous, on veut voir à l'intérieur du corps. Malheureusement, vous voyez bien que là, on est habillé, donc on ne peut pas voir à l'intérieur du corps. Même si on se met tout nu, vous n'allez pas pouvoir voir à l'intérieur du corps parce que les ondes optiques, elles ne rentrent pas à l'intérieur du corps. Et les ultrasons, eux, ils sont capables de bien rentrer à l'intérieur du corps et nous permettent de faire des images. Si maintenant, vous regardez comment sont ces deux paramètres pour l'échographie, la résolution spatiale et la résolution temporelle, c'est 50 images par seconde, l'échographie, et 0,2 mm. Vous voyez, c'est exactement la même chose que notre œil pour regarder le monde qui nous entoure. Donc on voit à l'intérieur du corps par ultrasons de la même façon qu'on voit le monde extérieur. C'est la réalité, c'est la télévision du corps humain, les ultrasons. Ce qu'on a fait dans notre équipe dans les 15 dernières années, c'est qu'on a essayé de casser ces deux barrières-là, en fait, la résolution temporelle et la résolution spatiale. Et on a réussi, en changeant la façon d'émettre les ondes, on a réussi à créer un échographe qui passe de 50 images par seconde à 10 000 images par seconde du corps humain. Et comme on voit à cadence ultra rapide maintenant à l'intérieur du corps, c'est exactement comme si vous passiez un film du corps au ralenti. Et donc on rentre dans un nouveau monde, et c'est un peu le voyage invisible, on rentre dans le monde de la milliseconde, c'est un monde de l'ultra rapide. Et là, on commence à voir des phénomènes qu'on verrait pas que le médecin, bien sûr, ne pourrait pas voir avec ses yeux, mais que les appareils standards ne peuvent pas voir. Si quelqu'un tire une balle au milieu de la pièce ici, la balle va traverser la pièce, mais on ne la verra pas, elle va trop vite. Avec un échographe ultra rapide dans le corps humain, on peut voir ces phénomènes. Et bizarrement, de manière intéressante, il y a énormément de phénomènes qui se passent à l'intérieur de notre corps à des cadences très rapides. Quand je vous parle, là, je fais vibrer mes cordes vocales. Et mes cordes vocales, elles vibrent plus de 3000, 4000 fois par seconde. Et ça crée des vibrations un peu partout dans mon corps. Et ces vibrations vont très vite. Avec un échographe ultra rapide, vous pouvez les voir. Quand mon cœur bat toutes les secondes, il crée des vibrations. Et ces vibrations envoient des ondes mécaniques tout au long des artères, dans les tissus. Et ces ondes mécaniques, on peut les voir avec un échographe ultra rapide. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans les 15 dernières années. On a montré qu'on était capable de rentrer dans un nouveau monde, de zoomer en temps, dans le temps, à l'intérieur, à une cadence ultra rapide, et de voir des phénomènes qui n'étaient pas visibles. À partir du moment où on voit ça, alors vous allez me dire à quoi ça peut servir. Quand vous voyez les vibrations à l'intérieur du corps, vous allez pouvoir regarder à quelle vitesse elles se propagent, et de manière très intéressante, elles se propagent à une vitesse qui est directement reliée à la dureté des tissus. Donc avec ces ondes, vous pouvez faire des cartes de la dureté des tissus, et la dureté, c'est le premier paramètre de la médecine, c'est l'acte de la palpation. Depuis plus de 3000 ans, tous les médecins dans le monde, les Égyptiens, les Grecs, tout le monde utilisait déjà la palpation il y a 3000 ans pour essayer de trouver des tumeurs, sentir des lésions dures. La dureté change énormément avec la pathologie. Donc c'est ce qu'on a fait. On a créé un échographe ultra rapide pour essayer de mesurer ce paramètre, faire des cartes de la dureté des tissus. Alors à partir du moment où vous rentrez dans ce monde de l'ultra rapide, vous êtes capable de voir d'autres choses, vous êtes capable de voir les flux sanguins de manière très très précise. Et ça, c'est une deuxième révolution qui est en train d'arriver. Par les ultrasons, on va pouvoir voir l'activité cérébrale de manière très précise dans le cerveau, Aujourd'hui, pour voir l'activité cérébrale, il faut des IRM, qui sont des systèmes très très gros, qui sont des magnifiques systèmes pour voir l'activité, mais ce sont des systèmes qui coûtent très cher et qui sont immobilisés dans l'hôpital. On a un rêve fou en ce moment, c'est de pouvoir voir l'activité cérébrale avec les ultrasons, mais avec des systèmes qui seront portables. Et peut-être qu'un jour, on pourra voir nos émotions, on pourra contrôler notre douleur, juste en essayant de regarder notre cerveau par ultrasons. Voilà un peu ce qu'on fait et ce qu'on aimerait faire dans l'avenir.
Alors François, on a parlé là pour le moment de manière physique, soit de percevoir le corps, soit d'agir sur le corps, mais il y a aussi la chimie. Donc il y a aussi les molécules qu'on peut faire rentrer dans le corps. Enfin, et ça, c'est ton domaine.
Oui, chimie, je dirais physico-chimie, parce que ça implique plusieurs technologies. Je suis donc pharmacien hospitalier principalement, et puis également écrivain de science-fiction. Et ce que je propose là, c'est quelque chose un peu à mi-chemin entre les deux casquettes. C'est-à-dire que je propose de... J'avais présenté dans le cadre hospitalier, à l'attention d'un groupe de soignants, de médecins, de pharmaciens, une vision du métier de pharmacien hospitalier de l'avenir. Alors j'avais exercé mes fonctions d'écrivain de science-fiction, d'illustrateur de science-fiction, pour imaginer ce que pourrait devenir l'utilisation des médicaments dans un futur plus ou moins proche. Ici, je vais pas passer tout le diaporama que j'avais préparé à cette occasion-là, mais j'avais réfléchi un peu à l'administration de certains médicaments, en particulier sur certaines cibles difficiles à atteindre, parce qu'un des problèmes des traitements médicamenteux, c'est qu'on voudrait qu'ils agissent à un endroit du corps, mais malheureusement, en les injectant, par exemple, sous forme de perfusion, eh bien, ils vont se disperser dans tout l'organisme et créer beaucoup d'effets indésirables qu'on ne souhaite pas quand on veut cibler principalement une inflammation ou une tumeur ou un champ particulier de l'organisme. Alors, une des technologies que j'avais un peu imagé, c'était ce que je pourrais appeler la macro ou la nano, ces deux échelles différentes, micro, hein, petit, ou nano, vraiment en dessous du nanomètre, galénique. Galénique, c'est la science de la forme du médicament. Quand vous faites, vous administrez un médicament, que vous le faites sous forme de comprimé, sous forme d'ampoule injectable ou sous forme de suppositoire, eh bien vous faites de la galénique. Vous vous interrogez sur la forme d'administration du médicament. Alors, mon concept était d'imaginer qu'on allait, en quelque sorte, créer de mini-vésicules ou de nano-vésicules pour faire entrer le médicament dans l'organisme, mais en l'enveloppant d'une certaine façon pour pas qu'ils libèrent tout de suite leur contenu. Et ça, c'est des technologies qui sont déjà actuelles. C'est la nano-encapsulation, c'est-à-dire qu'on crée de micro-capsules qu'on va injecter dans l'organisme pour amener le médicament sur des cibles précises. Alors, l'image que je proposais, la technologie, la machine que je propose est évidemment un peu grossière, parce qu'on parle en matière de nanotechnologie d'un grossissement qui est énorme, donc qui va quasiment à l'échelle vraiment très 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 petite. Alors il s'agit d'un enrobage et d'encapsulation spéciaux. Alors à quoi pourrait servir cet enrobage? Eh bien par exemple ici, c'est des substances pharmaceutiques ou des substances biologiques ayant une action médicamenteuse. On pourrait imaginer de les encapsuler dans des vésicules qu'on pourrait appeler intelligentes et puis qui assurent le transport, la protection du médicament et la libération des médicaments. Ensuite, grâce à un système de triangulation en quelque sorte, d'ondulatoire, de système magnétique, on pourrait par exemple imaginer des nanosomes, des petites vésicules qui soient faites en particulier de particules ferreuses, et ensuite, grâce à un système magnétique, on pourrait les orienter sur une cible particulière. Et vous avez une sorte de triangulation comme ça de trois champs magnétiques qui vont orienter les particules pour qu'elles agissent précisément à un endroit du cerveau. Maintenant, de façon plus imagée et qui rappelle davantage Star Wars que la réelle pharmacie, je me suis dit, ben, peut-être qu'on peut avoir des microsystèmes, des nanosystèmes qu'on pourrait piloter et qu'on pourrait guider directement dans la cible, à l'image du sous-marin du fameux film Le Voyage Fantastique. Sauf qu'ici, ce n'est pas les humains qu'on rapetisse pour les envoyer dans le sous-marin qui va à l'intérieur du corps guérir le... Mais ce sont des petits dispositifs, des petites machines, des nanomachines qui vont remonter le flux sanguin pour aller précisément sur leur cible. Et donc, il s'agirait d'administrer ces micros, ces nano-capsules d'une manière non invasive, par exemple sous forme de spray nasal ou sous forme de pour que ça passe facilement les membranes organiques et pénètre dans le système vasculaire. Il serait plus nécessaire de les injecter tellement c'est petit. Et ensuite, l'opérateur guiderait les dispositifs, soit des bras articulés qui iraient les déposer à un endroit donné, ou alors qu'il les guiderait avec une sorte de système de pilotage à distance pour amener les substances précisément sur les cibles pharmacologiques qu'on veut atteindre. Vous remarquez, ironie un peu du sort, j'avais pas du tout prévu de parler de ça dans le cadre de ce thème du voyage fantastique, mais vous voyez que l'opérateur ici, il a l'air de manipuler un périscope de sous-marin, alors qu'en fait, il est à l'extérieur de sa cible, mais la technologie de pilotage rappelle celle du pilotage des sous-marins. Donc voilà quelques idées en matière de galénique du futur pour, en quelque sorte, guider le médicament comme le fameux sous-marin du voyage fantastique.
Alors j'ai envie de vous demander, mais quel est le prochain pas ? Est-ce que on a des applications là, soit à portée de main, soit beaucoup plus spéculatives pour ce genre d'idées ? Par exemple, quand on se dit qu'on peut écouter les émotions, on se demande si on peut faire, oh, je veux dire une bêtise, un détecteur de mensonges super performant. Les détecteurs de mensonges n'étant pas des choses... ceux qui existent à l'heure actuelle très, très efficaces et qui sont, je crois, à peu près abandonnés, peut-être que ce genre de choses va revenir. On se demande si on peut entièrement oublier toute intrusion matérielle dans le cerveau pour opérer dedans. Et on sait qu'il y a beaucoup besoin d'opérer dans le cerveau à certains moments et que c'est toujours difficile d'y faire rentrer quelque chose. Et puis, je pense que vous aurez aussi des idées et peut-être des questions les uns envers les autres. Qu'est-ce qui s'y jette ? Je ne sais pas. Régis ?
Oui, ben, je peux rebondir, effectivement, puisque aujourd'hui, on est en train de sortir du strict domaine médical pour aller mesurer des émotions. Donc, les émotions, ce n'est pas forcément médical. Tout le monde a des émotions, hein, même quand on se porte bien. Et la question, pourquoi mesurer des émotions ? Alors, on sait le faire, mais on s'est posé la question, pourquoi ? Eh bien, une idée qui est venue, elle n'est pas venue de nous, mais elle est venue de quelqu'un qui est venu de l'extérieur, quelqu'un qui était dans le marketing, dans la communication, et puis il s'est dit, votre idée, c'est génial, parce qu'on peut peut-être aider à mieux marketer un produit, par exemple, ce qu'on appelle un stimuli marketing. Je prends l'exemple de la musique. C'est le premier essai qu'on a fait. On vous fait écouter une musique, et puis on voit l'émotion que procure la musique. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on va... sur différentes musiques, on va tester sur un panel de personnes, on va prendre 50 personnes ou 30 personnes, ça c'est largement suffisant. On va faire écouter la même musique à 30 personnes, on va mesurer de façon individuelle le niveau d'émotion que procure la musique. Mais en fait, on va faire une moyenne sur les 30 personnes, on va dire, ben voilà, c'est ce morceau-là qui est plus sensible émotionnellement que tel autre. Et donc là, y a possibilité, effectivement, d'utiliser ces brevets qui sont à l'origine des brevets médicaux dans l'exemple du marketing.
Il peut y avoir aussi la possibilité pour une personne d'avoir envie de réguler ses émotions ?
Oui, alors on a également une application qui permet de réguler les émotions négatives, c'est-à-dire le stress. Le stress est une émotion négative. Donc quelqu'un, par exemple, qui a une phobie des araignées, on va lui proposer des images d'araignées, on va mesurer son stress. Et on va lui demander, par exemple, de respirer très profondément, très lentement. Pourquoi ? Parce que le fait de respirer profondément et lentement, ça stimule notre fameux système nerveux autonome qui, lui, va se mettre au repos, du coup. Donc, ça va diminuer le niveau de stress Et donc, avec un apprentissage de quotidien, eh bien, la personne va, au bout d'un moment, comprendre eh bien, qu'il faut respirer pour se calmer, pour diminuer le stress.
Pierre, il y a...
Pour une petite réaction, il y a plein de choses à dire sur le tour de table. Déjà, une petite réaction sur les dessins qui ont été montrés à la fin. On est déjà très près de ça. Hein, en recherche, on est déjà là, sur ces points-là. Je mettrai deux exemples. Je pense que, Mickaël, toi, tu en as d'autres. Hein. Les nanorobots, qui sont vraiment au niveau de la particule et qui sont pilotés magnétiquement de l'extérieur. Là, on est au début de ça, hein, mais les tailles sont nanométriques. Y a un exemple que j'avais vu récemment que je trouvais assez intéressant dans une conférence de robotique médicale où, en fait, la salle d'opération est construite à l'intérieur du corps. Et donc, les éléments sont évidemment tout petits. Ils sont ingérés... Donc soit ingéré, soit passé par des trocars, donc des petits trous au niveau du ventre là, et on va rentrer les instruments les uns après les autres, la caméra, les lumières, et on va se construire à l'intérieur du corps une petite salle d'op.
Avec un petit chirurgien grand comme ça.
Le petit chirurgien, il est à l'extérieur et lui il pilote et lui il conduit avec le microscope qui regarde, avec des outils, il est derrière une console et puis il pilote ce petit robot. Donc on est aussi, on appelle ça la cobotique. C'est-à-dire que c'est de la robotique, mais pilotée par un opérateur. Alors, c'est la recherche, hein, c'est pas encore, ça pose tous des problèmes. Faut évaluer la valeur ajoutée. Est-ce que la technologie, elle n'est pas trop chère par rapport à la valeur ajoutée que ça donne pour le patient? Mais on est très proche de cette science-fiction, finalement, que tu montres là.
Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre, il y a énormément de projets en ce moment sur... ces ingestions de robots, en fait. Je vous invite à aller regarder sur internet PillCam et iPill. Ce sont des petites capsules qu'on injecte, qu'on absorbe. Et en fait, PillCam, c'est juste un système qui prend des photos en permanence lorsque cette petite pilule descend dans l'estomac et descend jusqu'au côlon. Et vous allez avoir comme ça, pour le médecin, la possibilité de voir l'ensemble du côlon sans avoir besoin d'une coloscopie. Ça sera l'avenir. Et donc les informations sont transmises en temps réel par la pilule jusqu'à un ordinateur qui est un petit ordinateur qui est placé dans une ceinture chez le patient. Le patient sort de l'hôpital, il part se promener, il passe sa journée tranquillement. Et au bout de 24 heures, on a tout le parcours de la pilule dans l'estomac et vous avez ces images pour pouvoir analyser et vérifier s'il n'y a pas un problème. Donc ça c'est vrai qu'on y est déjà. Et sur le principe que vous avez montré tout à l'heure d'essayer de créer finalement ces médicaments à distance, c'est extrêmement visionnaire et on y arrive, on est en train d'y arriver. Dans notre équipe, on a créé des toutes petites vinaigrettes. Ce sont des vinaigrettes qui font à peu près un micron, des petites gouttes. Et dans ces vinaigrettes, on met un composé A. Et puis dans d'autres vinaigrettes, à côté, on met un composé B. Et A et B, ils sont complètement naturels, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas du tout toxiques. Et puis on met autour d'eux un liquide qu'on appelle le perfluorocarbone liquide. Je suis sûr que ceux qui aiment la science-fiction l'ont déjà entendu parler. Le perfluorocarbone liquide, c'est dans le film Abyss. Vous savez, c'était ce film où les plongeurs plongeaient très profond et ils avaient du liquide dans les poumons. Et bien en fait, c'est ça, c'est le perfluorocarbone liquide. Ce liquide, il vaporise à très faible pression. Ce qui fait que quand vous auriez un faisceau ultrasonore à distance dessus, avec un échographe par exemple, ou un système d'imagerie, et bien vous allez transformer le liquide en gaz et ça va faire sortir le composé A, mais uniquement à l'endroit où vous envoyez l'onde ultrasonore. Et donc le composé A va sortir, le composé B va sortir uniquement dans la zone que vous avez ciblée, comme vous l'avez montré tout à l'heure avec les ondes magnétiques. Et là, A plus B vont réagir ensemble pour faire une réaction chimique, pour donner C, et par contre C, lui, il est très toxique. Et donc il va attaquer, par exemple, une tumeur, mais uniquement dans la tumeur. Et c'est vraiment ce qu'on appelle le concept de chimie in situ. On fait de la chimie à distance dans le corps humain grâce à une onde ultrasonore. Et ça, c'est intéressant parce que si A et B ensuite se décomposent tranquillement dans le corps à des vitesses différentes, eh ben, vous n'allez plus du tout avoir de toxicité des médicaments dans des zones où vous ne voulez pas les avoir. Et malheureusement, aujourd'hui, le problème de la chimiothérapie, de l'injection de médicaments, c'est que eh ben, pour quelquefois traiter 1 cm cube du corps humain, eh ben, on est obligé d'agresser l'ensemble du corps. Là, on espère qu'à l'avenir, en mélangeant ondes et gouttes, on sera capable d'aller le faire de manière très localisée. Et on sait déjà le faire chez l'animal, et on espère bientôt être capable d'aller le faire chez l'homme.
Et ça me fascine et me stimule et m'intéresse vivement de voir combien parfois la science-fiction dialogue avec la réalité. Et ça prend parfois des proportions, je veux dire, les innovations, quand on écrit de la science-fiction à court terme, on imagine ce qui pourrait arriver d'ici quelques années, on s'aperçoit qu'on est vite rattrapé par la réalité. Exemple, la présentation dont je vous ai extrait tout à l'heure quelques diapositives, j'ai dû la refaire parce que entre 6 mois que s'était écoulé de temps qu'il y avait eu entre deux présentations, j'avais eu connaissance de nouvelles technologies. Par exemple, des imprimantes qui impriment des médicaments. Puisqu'on a fait de l'impression 3D, maintenant on peut imaginer des imprimantes qui impriment directement des médicaments. J'avais dû l'inclure dans ma présentation. Mais juste une petite anecdote, on reste dans la pharmacie, on sort peut-être un petit peu de votre domaine pour vous montrer combien des fois quand on écrit un roman de science-fiction mais en s'informant très régulièrement de l'actualité pharmaceutique, comment les choses peuvent parfois évoluer tout à fait en parallèle. Lorsque j'ai écrit Metakin, le roman de science-fiction qui traite essentiellement d'un médicament, j'avais imaginé que ma molécule faisait l'objet de tests dans des laboratoires de l'entreprise qui commercialisait ce fameux médicament, l'entreprise Globantis Pharma. Et j'avais fait dire à un chercheur, un personnage de mon roman, qui raconte un peu les prouesses de ce médicament fantastique, qui raconte à ses collègues, qui dit, ben voilà, on a fait une expérience, on a rendu des souris artificiellement stressées, vous parliez du stress tout à l'heure, alors avec un procédé knock-out, c'est-à-dire qu'on a agi sur les gènes des souris pour les rendre particulièrement stressées, et on les a tellement bien stressées qu'on a supprimé chez elles le réflexe normal de fuite. Et ensuite, on leur a donné de la métaquine. Et la métaquine les a miraculeusement, immédiatement déstressées. Et puis, elles ont retrouvé leur réflexe de fuite normal. Et ça, c'était en 2012. J'étais encore en train d'écrire le roman. Le roman terminé, je l'envoie chez l'éditeur. C'était en 2015. Je parcours la littérature scientifique comme ça par curiosité. Je tombe sur une étude américaine qui fait un essai sur la kétamine. Dans Metakin, c'est quasiment l'anagramme de kétamine, une autre molécule très intéressante dont je pourrais vous parler aussi, mais ce n'est pas le propos. Retenez kétamine. Il y a une équipe américaine en 2015 qui a stressé artificiellement des souris, qui les a rendus artificiellement stressés, qui a supprimé chez elles le réflexe de fuite, qui leur a donné de la kétamine, et les souris, miraculeusement, sont devenues totalement déstressées et ont retrouvé leur bon réflexe de fuite devant le danger. Donc à quelques années d'intervalle, j'avais imaginé les résultats d'une étude qui est sortie deux ans après. C'est vraiment aussi ce sentiment qu'on a parfois en science-fiction, de vraiment marcher avec la science et l'évolution et les progrès en cours. Et c'est tout à fait fascinant. Vous parliez tout à l'heure de miniaturisation ou de réduction de taille de lecteurs cérébraux, de scanners cérébraux. Eh bien, si vous passez dans l'exposition consacrée à Metakin, là juste à côté, eh bien, vous verrez, j'ai toutes sortes de propositions de design, de calottes cérébrales qui lisent directement les instructions dans le cerveau, ce qui n'a plus besoin de souris, plus besoin de clavier, plus besoin de joystick, puisqu'on lit l'intention directement dans le cerveau, juste avec un petit ruban autour de la tête qui détecte justement toute l'activité cérébrale et qui traduit immédiatement l'information sous forme de mouvement, sous forme d'instruction à donner à la machine. Voilà.
Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que science et science-fiction sont toujours intimement liées. En fait, on a à très peu d'années d'intervalle toujours des découvertes qui vont exactement dans le sens de ce que les héros de science-fiction nous apportent ou les écrivains. Et pour preuve, moi, souvent dans mes présentations maintenant de physique, dans des congrès de physique et de médecine, ben, je commence ma présentation par montrer un héros de Marvel, Quicksilver, qui était ce héros qui est capable de se déplacer extrêmement vite, d'analyser le monde à cadence ultra rapide. Et en fait, je montre juste un petit passage du film en disant voilà, ça c'est Bien sûr, quand j'étais petit, je regardais j'étais épaté par ces héros de science-fiction, mais je savais bien que c'était pas la réalité. Et je leur explique, ben voilà, vous voyez, en fait, ce super-héros, il est capable de voir à cadence ultra rapide, il est capable de tout analyser à cadence ultra rapide, il est capable de se déplacer à cadence ultra rapide, et donc à la fin, il est capable de modifier la réalité. Et donc les trois premières étapes dont je viens de vous parler, maintenant, on est capable de le faire en médecine. On est capable de voir à cadence ultra rapide, analyser beaucoup plus vite que la réalité, 50 images par seconde. Et ensuite, on est capable ensuite même de déplacer des choses à l'intérieur du corps humain à des cadences beaucoup plus rapides. Il reste la dernière étape. On pourrait même imaginer la dernière étape, c'est on détecte un problème dans le corps humain à moins d'un 1/20 de seconde et on le corrige. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on modifie la réalité, notre réalité à nous, qui est limitée à 20 millisecondes.
Peut-être un petit mot par rapport à ça pour rebondir. Il y a des choses intéressantes. On appelle ça la médecine préventive. Alors, c'est les 3 P, là. Juste pour le préventive, prédictive et personnalisée. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce qu'on cherche à faire. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est science-fiction, mais que dans tout ce qu'on fait, nous, chercheurs INSERM, on a le patient qui est central. Et l'objectif, ce n'est pas de développer la technologie pour s'amuser derrière les ordinateurs. Je pense que vous l'avez compris, c'est d'améliorer la prise en charge médicale, chirurgicale à chaque fois. Et les tendances aujourd'hui sont vraiment ce qui est en train d'émerger là. On a parlé d'invasion minimale, donc de focaliser le traitement là où il faut qu'il soit et pas autour. Donc de conserver les zones saines, par exemple, quand on enlève une tumeur cérébrale, on enlève que la tumeur et puis on essaie de conserver les zones fonctionnelles qui sont autour. Quand il y a un traitement radiothérapique, on essaie de mettre la dose là où il faut et puis de pas traiter autour. Quand on va opérer le foie, on essaie d'avoir des zones d'accès qui sont les plus petites possibles. Donc là, c'est le minimally invasive. Et puis, c'est de faire de la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on va profiler presque votre personnalité. Vous êtes qui? C'est quoi vos caractéristiques cliniques? C'est quoi vos préférences éventuellement? Et puis on va chercher par rapport à tout ce qui a été fait, donc c'est un peu ce que j'ai montré un moment dans les diapositives, hein. On va chercher dans tout ce qui a été fait éventuellement dans le monde, dans les bases de données dont on peut avoir accès, on va chercher ce qui a été fait pour des patients qui ont le même profil que vous, et on va essayer de trouver, enfin que vous, que nous, hein, on va essayer de trouver le traitement adapté et vraiment personnalisé. Donc c'est l'intérêt. Alors évidemment, si on peut anticiper, si on peut prévenir par des simulateurs éventuellement, de voir que ben, si on fait ce traitement-là, ça va donner des moins bons résultats, alors on va faire ce traitement-là. Donc c'est la prédiction. Et puis la prévention, ben, c'est éventuellement de pouvoir screener, c'est-à-dire regarder dans le corps en continu. Alors bon, c'est l'homme capté, hein, l'homme bourré de capteurs. Alors je ne sais pas si c'est bon à aller, parce qu'il y a des dérives évidemment éthiques dans l'homme bourré de capteurs, mais ça peut être, on est screené et puis on a ce qu'on appelle des biomarqueurs, enfin des mesures qu'on peut récupérer dans ces senseurs et qui sont prédictives de quelque chose qui peut arriver. Donc c'est, plus tôt on va traiter, mieux on a des chances de guérir. Enfin, c'est un peu les tendances.
Peut-être que maintenant, on a des questions de la part du public sur tous ces sujets qui ont été évoqués. Oui.
Bonjour. Est-ce qu'on peut envisager dans un futur plus ou moins proche des sortes de gardiens nanoscopiques, en fait, qui seraient constamment présents dans le corps et qui pourraient soit prévenir ou réparer tout de suite, ou est-ce que c'est du domaine de la recherche, ou est-ce que c'est du domaine encore de la science-fiction et ça restera du domaine de la science-fiction?
Juste un petit mot, puis après, très court. Non, c'est envisageable. Par contre, il y a plein de problèmes éthiques derrière ça. On opère quand? C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Et à chaque fois, alors sur des choses cancéreuses, c'est assez simple à définir. Il y a d'autres. Pour la maladie, pour la stimulation cérébrale profonde, on l'utilise par exemple pour des maladies neurologiques sévères ou psychiatriques sévères. Et là, on passe dans un champ où c'est plus flou, ce qui est le pathologique versus le sain. Donc il faut toujours faire attention. Le screening, le préventif, il a la limite qui est si, tu vas être malade, je vais te soigner, tu vas être malade, tu vas voir, tu vas être malade.
Oui, c'est vraiment intéressant, mais il faut faire attention, exactement comme le dit Pierre, notamment pour des raisons éthiques. On ne va pas soigner sans même avoir eu le temps d'évaluer. Et puis, il y a un deuxième problème qui est purement un problème de santé publique. Vous savez, quand il y a trois domaines dans la médecine. Il y a le dépistage, la prévention, le diagnostic et ensuite la thérapie. Et donc, si on imagine un jour qu'on a tous des capteurs qui permettent très, très tôt de trouver une maladie, c'est très bien, parce que mais c'est très bien uniquement si la deuxième étape, le diagnostic, et la troisième étape, la thérapie, on a déjà les outils pour traiter. Parce que quelquefois, on a des techniques qui apparaissent qui sont très bonnes pour dépister quelque chose. Il y a de plus en plus de choses qui sont dépistées. On dit au patient, vous avez quelque chose, et alors on n'a pas encore les bonnes méthodes de diagnostic. Et là, c'est le stress total, parce que on n'est pas capable de dire si c'est, par exemple, si c'est une lésion bénigne ou maligne. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'on aille jusqu'à la biopsie, ça prend du temps, et ensuite on traite. Donc, à chaque étape, pour chaque domaine, si un domaine progresse, il faut espérer qu'à chaque fois, l'autre domaine va progresser en même temps, parce qu'autrement, on peut se retrouver très vite avec plein de patients supplémentaires, et on ne sait pas encore comment les traiter. Et donc on va y arriver, ça c'est sûr. On pourra avoir des capteurs, on pourra même avoir bientôt des échographes. C'est pas de la science-fiction du tout, hein, c'est de la recherche, on y est en ce moment. Des échographes qui seront miniatures et qui seront implantés dans le corps humain.
Je rebondis avec le point de vue de la science-fiction. La science-fiction a souvent des extrapolations un peu gratuites comme ça, mais souvent elle s'interroge avec beaucoup d'a priori sur les conséquences de certaines technologies ou de certains développements. Et pour reprendre votre question, il y a un écrivain américain, Jack Williamson, sauf erreur, qui a écrit un roman qui s'appelle « L'ère du satisfacteur », c'est le titre français qu'on lui a donné. Et ce satisfacteur, c'est un dispositif portable que les gens, parce que tout le monde en a un, portent en permanence et qui analyse à tout moment quel est l'état de santé du patient. Et en particulier, quel est l'état de santé mentale du patient. Et dès que le porteur du satisfacteur fait mine d'avoir l'air un peu déprimé, hop, une petite injection d'antidépresseur. Si tout à coup il est un peu énervé, hop, un petit calmant, etc. Donc immédiatement, le satisfacteur régule l'humeur du patient et rend son humeur absolument égale, son comportement absolument conforme, etc. Ce qui vous montre que la science-fiction parfois s'interroge un peu sur les excès auxquels peuvent mener de tels développements. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que la science-fiction peut accompagner la démarche du chercheur. Tout à l'heure, on parlait de détecteurs de mensonges. Alors c'est vrai que votre dispositif pourrait servir à de mauvaises fins, à certains interrogatoires policiers ou autres, et la science-fiction a souvent imaginé ce genre d'abus. Et c'est intéressant de retrouver une interrogation de type éthique qui accompagne la démarche purement technique. Et la science-fiction le fait assez souvent, cette démarche-là.
D'autres questions ? D'autres remarques
Peut-être je peux rebondir à nouveau là, sur ce que vous avez dit. Est-ce qu'il faut donner tout à voir aux gens? Est-ce qu'on doit tout voir en fait chez nous? Ça, c'est une question aussi qui est ouverte. Il y a un très beau film de Wim Wenders que vous avez peut-être vu, Until the End of the World, où en fait, les personnes avaient un appareil pour pouvoir regarder leurs rêves. La nuit, ils dormaient, ils rêvaient. Et le lendemain matin, ils se réveillaient, ils pouvaient voir leur rêve. Et très vite, en fait, ils deviennent tous obsédés. Ils passent tout leur temps à regarder l'appareil et regarder ce qu'ils ont rêvé la nuit, en fait. Et c'est assez intéressant parce que peut-être que tout n'est pas bon à donner à voir. Et il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on doit donner à voir à la fois aux médecins aux gens hors de l'hôpital, aussi aux patients. La technologie va pouvoir aller très loin. Il faut que les barrières éthiques et la réflexion éthique soient là. Et la science-fiction, c'est vraiment peut-être le meilleur moyen de prévoir l'avenir. Peut-être encore plus que la philosophie aujourd'hui.
C'est à la fois des choix éthiques et des choix politiques, hein, parce que c'est des choix de société, c'est des choix d'économie. On voit bien tout ça sous-jacent. Hein. Est-ce qu'on pousse les économies? Est-ce qu'on pousse les grandes entreprises qui ont des intérêts? On sent que c'est... Alors nous, chercheurs, on peut pas tout gérer. On essaye. On est conscient des limites, des dérives possibles de certaines choses qu'on fait. Même dans l'analyse de données, hein, même dans les grandes bases de données, à qui appartiennent les données? Est-ce que c'est à Google? Est-ce que c'est... Donc on est conscient de ça, mais c'est vrai qu'on peut pas... Là, il faut passer le flambeau... à vous aussi, dans votre vision, votre choix de société, votre choix de politique, votre choix éthique, tout ça s'est mené, et de venir récupérer, dialoguer, c'est le parfait endroit ici pour ça, hein, pour nous avertir, pour nous sensibiliser.
Bien, donc sur cette question ouverte, je pense que si le public n'intervient pas... Ah si, il y a quelqu'un là-bas, au fond. Au fond, là-bas.
Bonsoir, merci de me donner la parole. Je me faisais la réflexion que l'imagerie médicale avait tendance à aller vers le toujours plus petit. On le voit aussi en IRM, lorsqu'on passe au Auchan, 7 Tesla, 9 Tesla, 11 Tesla, on descend à la colonne corticale, et ainsi de suite. Et à la fin, on se rend compte qu'on est tellement petit que c'est trop compliqué, en fait. Et le mouvement que vous faites vers le tout petit, on se demande s'il ne faudrait pas le faire aussi vers le plus gros. C'est-à-dire, finalement, arriver à avoir un peu une synthèse de tout ça, parce que plus on avance vers l'atome, enfin la molécule, puis l'atome, moins on réalise qu'on comprend les choses, parce qu'on gagne en complexité, en pratique. Donc, je me disais, YOLO, allons voir le gros, maintenant.
Oui, c'est une excellente question, en fait. On n'a pas besoin d'aller dans l'infiniment petit tout le temps, en fait. Et ce qui est important, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas l'imagerie, d'ailleurs. C'est pas l'imagerie. Ce qui est important, c'est la réponse clinique. C'est-à-dire que le médecin, à un moment donné, il doit dire soit noir, soit blanc. Il doit dire j'ai compris, j'ai pas compris. Et en fait, c'est ça la question importante. Et quelquefois, avec juste un examen clinique, on est capable de donner la réponse. Quelquefois, juste avec un tout petit appareil qui fait juste une toute petite mesure, on est capable de dire « Ah, c'est ça le... » Il ne faut pas aller plus loin. Si vous répondez à la question clinique avec cet appareil qui est tout simple, eh ben, c'est génial parce qu'en fait, vous faites un appareil qui ne coûte pas cher, qui peut être utilisé par tout le monde et qui surtout répond à la question. Et vous avez complètement raison. La course à au plus petit, au plus rapide, au plus n'est une course qui n'a de sens que si elle répond à une question clinique qui est vraiment pertinente et intéressante et qui va aider le médecin. Si c'est juste pour faire des plus belles images, pour faire des plus beaux films, ça ne sert à rien. Et tout le temps, dans toute la démarche scientifique, quand on améliore un système, en fait, on ne l'améliore pas pour l'améliorer. On l'améliore parce qu'on sait qu'on va chercher une réponse clinique en permanence. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment une marque de fabrique, je pense, des chercheurs à l'INSERM. On est formaté comme ça. On a toujours la volonté de répondre à une question clinique avant tout. La technologie suit avec, hein, bien sûr. Mais on démarre par la question clinique. On veut répondre à ça. Pour répondre à ça, j'ai besoin d'aller jusqu'à tel niveau. Et après, je m'arrête parce qu'on ne va pas faire plus que ce qu'on a à faire. Mais on répond à une question clinique et c'est un échange permanent entre cliniciens et physiciens ou chimistes ou biologiste, mais vous avez complètement raison, on a quelquefois un tout petit appareil donne la réponse, le stéthoscope, on a des tonnes d'exemples où des appareils donnaient des réponses majeures et c'était quasiment rien. Je me rappelle, je peux peut-être faire un commentaire, je me rappelle d'une discussion avec quelqu'un qui regardait les œdèmes jambiers, il me disait moi je fais ma mesure, c'est un test qui est très courant, je prends un dé à coudre, vous savez le petit dé à coudre qu'on met pour pas se piquer le doigt, je mets mon dé à coudre sur la jambe, j'enlève et puis je regarde combien de temps le cercle, la marque du dé à coudre reste et juste ce temps lui donner une information. Donc quelquefois on peut faire un diagnostic juste avec quelque chose de très, très basique.
Si je peux juste... 5 minutes. Non, une minute. Une minute. Juste pour compléter la réponse à la question, il ne faut jamais oublier que, et vous l'avez compris, il y a toujours le médecin qui est là, hein, on ne cherche pas à l'enlever. Et pour aider la prise de décision du médecin, il faut comprendre aussi comment il prend sa décision. Et la prise de décision, elle est basée sur des couches qui sont bien définies. On a des données qui viennent de capteurs, mais on ne s'arrête pas aux données, on les transforme en informations. Donc il y aura toujours ce passage en information. Après l'information, on la transforme en connaissance, la connaissance en compréhension. Donc on ne reste pas au niveau du pixel, on ne reste pas au niveau de la mesure. Évidemment, la donnée sans l'information n'a pas de sens.
Bien, eh bien, je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier les participants et puis le public qui a écouté.